Le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils ont attendu, et c'est maintenant qu'ils font leur première dose de vaccin. Peur de la cinquième vague, envie du pass sanitaire, on verra comment se décident les retardataires. Avant de partir pour Genève, où 2000 personnes ont été mises à l'isolement dans une seule école à cause du variant Omicron. L'irrésistible ascension d'Éric Ciotti arrivé en tête du premier tour du vote pour l'investiture LR hier. On va revenir sur les raisons de cette victoire, alors que Valérie Pécresse par favorite du second tour qui commence à l'instant. La droite à l'aube de la présidentielle, ce sera aussi le grand débat tout à l'heure.
Oui, avec notre consoeur du quotidien Le Monde, Françoise Fressoz, et le politologue Jérôme Jaffré. Participez à ce débat, évidemment, sur le paysage politique à droite. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Celui qui croyait au complot et celui qui n'y croyait pas, les 10-15 ans y croient à 85% selon un sondage, parce qu'ils ont du mal à décrypter les sources de l'info. On va les entendre. Dans ce journal aussi, un baron de la drogue français très discret en tête de la liste des criminels recherchés par les polices européennes. Et de l'humour dans l'art, ce sera l'idée cadeau de notre calendrier de l'Avent, un livre poilant, ah ah ah, c'est son titre.
France Inter.
Alors que les vaccinés cherchent tous une dose de rappel, ils sont encore plus de 20 000 chaque jour à venir tendre le bras pour une première injection, indécis ou réfractaires, qui finissent par se faire à l'idée et qui passent le cap un an après l'ouverture de la campagne de vaccination. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Camille Laurent leur a posé la question dans ce centre parisien.
À 78 ans, Madeleine s'est finalement résolue, convaincue par son médecin.
À mon âge, si je l'attrape, dans ce cas avec le vaccin, j'évite l'éventualité d'un cas grave. Et deuxièmement, pour me faciliter un certain nombre de démarches pour lesquelles on me le demande systématiquement.
Le pass sanitaire, c'est la raison de la venue de Marie-Angèle, une venue à reculons.
Parce que je ne vois pas des résultats forcément positifs, on a encore une vague dans le monde entier. Et en plus, voilà, il y a un variant, il semble un peu plus fort, mais bon, je pense que ça va continuer comme ça.
Une dose dans le bras et son rendez-vous pour la deuxième en poche, Fanny a mis du temps à se décider.
J'étais réticente, c'est déjà un nouveau vaccin, je préférais prendre mon temps. Et pourtant, lors de la première vague, j'étais au travail et j'étais bel et bien au front. Hein. Je me suis décidée hier et je me suis dit, je vais me lancer, tout simplement. C'est la cinquième vague, c'est vraiment le grand élément déclencheur et puis c'est pour me protéger moi aussi.
Dans ce centre, les premières doses représentent 10% des 450 injections par jour.
Et désormais, plus de 52 millions de Français ont reçu au moins une dose, soit 90% de la population vaccinable. En Allemagne, plus de courses de Noël, de restaurants, de cinéma pour les non-vaccinés. La plupart des portes leur seront désormais fermées avant une obligation vaccinale que Berlin voudrait faire appliquer à partir du mois de février. En France, hier, 48 000 nouvelles infections, 103 décès et 200 admissions en réanimation. Situation préoccupante évidemment, dit Jean Castex, revenu de son isolement après avoir lui-même été contaminé. Un conseil de défense aura donc lieu lundi pour étudier de possibles mesures pour enrayer la cinquième vague. Côté variant maintenant, chacun compte ses Omicron. 9 cas en France, les États-Unis en recensent 9 aussi, dont 5 détectés hier dans l'État de New York. Alors qu'en Suisse, avec 2 enfants infectés dans la prestigieuse école internationale de Genève, c'est 2000 élèves et professeurs qui se retrouvent en quarantaine, du jamais vu dans le pays, Jérémy Lanche.
Les deux élèves testés positifs ont été contaminés par leur mère, revenue le 26 novembre d'un séjour en Afrique du Sud. Elle n'a développé les symptômes que quelques jours plus tard, alors que ses enfants étaient en cours à l'école internationale de Genève, un institut fondé il y a un siècle par des employés de l'ONU et très prisé des familles de fonctionnaires internationaux. Près de 1600 élèves fréquentent le campus de la Châtaigneraie où sont scolarisés les deux enfants testé positif. D'après les autorités locales, l'enquête a vite démontré que tout le monde a été en contact avec tout le monde sur le site, rendant impossible toute mesure d'isolement ciblée. Avec le personnel, ce sont donc 2000 personnes qui doivent se placer en quarantaine pendant 10 jours, période pendant laquelle elles devront réaliser un test PCR pour déterminer si elles ont été contaminées ou non par Omicron. Genève, Jérémy Lanche, France Inter.
Et voilà qui n'incite pas à l'optimisme. Avoir déjà eu le Covid protège mal du variant Omicron. Le risque de réinfection est multiplié par 3 par rapport aux précédentes mutations bêta et delta selon une étude scientifique sud-africaine. Enfin, c'est aujourd'hui que le professeur Raoult sera fixé sur son sort. Sera-t-il sanctionné par ses pairs de l'ordre des médecins qui pourraient aller jusqu'à le radier pour avoir manqué de déontologie en faisant la promotion de l'hydroxychloroquine et en soignant ses patients avec
Ciotti ou Pécresse, 8h05 Florence, lequel des deux incarnera son parti LR à la présidentielle.
Valérie Pécresse part favorite du deuxième tour de scrutin des adhérents qui vient de commencer. Les perdants du premier tour, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, se sont tous rangés de son côté, comme Gérard Larcher, le président du Sénat. Mais sans doute Éric Ciotti croit-il en sa bonne étoile, lui qui a créé la surprise en arrivant hier devant ses concurrents. Retour sur un succès décrypté par Anne Souhaitement.
Début de campagne, Éric Ciotti écume les fédérations. Parmi ses tout premiers déplacements, Avignon, ses partisans ne le cachent pas. Militants LR, ils voteront Ciotti au Congrès, mais pourquoi pas Zemmour à la présidentielle?
Ça m'intéresse, je l'écoute, je le trouve convaincant.
Mais vous vous dites pas, c'est pas un homme LR, donc je voterai pas pour lui?
Pas du tout.
Maintenant, si au deuxième tour, il y a Zemmour contre Macron, j'hésiterai pas, je voterai Zemmour.
Petit à petit, le discours Ciotti infuse. Son leitmotiv, la fin du politiquement correct.
Moi, je n'ai pas de tabou.
Et la transgression, exemple, lors du premier débat, Éric Ciotti ne réfute pas la théorie du grand remplacement venue des milieux d'extrême droite.
Je crois qu'il est inutile de nier la réalité. Oui, notre société change. Moi, je n'ai pas peur des mots. S'il faut parler de grand remplacement, je parle de remplacement.
D'accord. Un positionnement à l'extrême de la droite qui séduit les militants les plus ultras.
J'aime sa fermeté. Aujourd'hui, on en a besoin.
Ceux qui assument une ligne identitaire.
Je pense qu'après, ces termes-là, ils ne sont pas forcément attribués qu'à l'extrême droite. Ils ne leur appartiennent pas.
Surprise de la campagne, Éric Ciotti a sans doute récupéré aussi une partie de l'électorat Barnier. Peu convaincant dans les débats, en tout cas moins tranchant qu'Éric Ciotti. Limite du succès ciottiste, la réserve de voix, il n'en a aucune pour le second tour, veut croire un proche de Valérie Pécresse.
Éric Ciotti en tête du premier tour, c'est la fin de la droite républicaine, se désole Jean-Luc Mélenchon. Il a en revanche reçu les félicitations d'Éric Zemmour, pour qui le RPR n'est pas mort. Investiture LR deuxième tour, jusqu'à demain 14h avant la proclamation du résultat dans la foulée. Aux Antilles françaises, un gendarme a été blessé à Saint-Martin lors d'affrontements hier. La France des Caraïbes, toujours agitée de violences sociales. Le couvre-feu a été prolongé en Martinique et en Guadeloupe. À quoi reconnaît-on une véritable information? Question cruciale dans un monde de réseaux où les plus jeunes sont sans doute les plus vulnérables. 85% des 10-15 ans croient à au moins une théorie du complot, selon un sondage de l'éditeur Jeunesse Milan. Les jeunes et les fake news, c'est un reportage de Faustine Calmel.
Mounir attend l'heure de son cours devant un collège parisien. Cet élève de 5e, 12 ans, surfe sur son téléphone.
Généralement, je m'informe sur les réseaux sociaux. D'abord, je regarde s'il y a plusieurs vidéos ou plusieurs sites qui parlent de ça. S'il y en a plusieurs, je pense que c'est vrai.
Mais distinguer le vrai du faux, ça n'est pas toujours simple pour Raphaël.
Exemple, il y a un chat qui tape sur un ordinateur, là on voit que c'est faux. Mais après, il y a des images, mais moi je ne sais pas tellement différencier.
Pour les y aider, la Fondation EDF présente en ce moment une exposition fake news à Paris.
Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une fake news?
Devant une quinzaine de collégiens, la guide décortique les deepfakes, ces vidéos de discours entièrement reconstruits et faux, ou les photos modifiées. Mathis, 13 ans, s'est déjà fait avoir.
Par des tweets, surtout. Des entraînements qui commencent à 3h du matin pour la meilleure santé des joueurs, pour qu'ils se lèvent plus tôt et qu'ils se couchent plus tôt. Et j'ai un peu vérifié aussi sur le site du club pour voir si c'était réel ou pas.
Une vérification encore loin d'être un réflexe, constate Emmanuel, la guide conférencière.
Je dirais la moitié semble vraiment alertée. Le deepfake, ça leur parle tout à fait. Le fond vert, mais face à leur téléphone, c'est comme s'ils oubliaient tout ça. Après, sur la conscience de la toxicité de certains usages et de certaines fake news, il y a encore du travail à faire.
Et le meilleur moyen de démonter ces fausses informations, c'est d'en rechercher la source, ce que 2 adolescents sur 3 ne font jamais ou rarement.
Et c'est contre les murs de la peur, parfois attisés par les fausses informations, que le pape François inscrit son voyage à Chypre, 2e jour, au chevet des migrants, dont 50 seront ramenés en Italie dans son sillage. Ce soir, il priera avec des réfugiés à quelques mètres de la ligne de séparation entre le nord occupé par la Turquie et le sud de l'île, Bruce de Galzin.
Ils ne seront que 4 réfugiés à témoigner et participer à la rencontre et la prière avec le pape ce soir dans l'église catholique Sainte-Croix de Chypre, à 2 pas de la ligne de séparation, la terrible lacération selon le pape qui divise l'île. À 2 pas aussi du centre pour migrants, géré par l'église qui accueille, nourrit, loge parfois les réfugiés et les aide à obtenir des papiers. Ils sont de plus en plus souvent Camerounais, Congolais, Nigérians, il y a moins d'Afghans, de Syriens. La Méditerranée étant tellement dangereuse, le plus grand cimetière du monde, a redit le pape, que les Africains américains préfèrent désormais arriver en Europe par la Turquie. Et à Chypre, un seul fil barbelé les sépare de l'Union européenne. Chypre est très facile à atteindre, mais très difficile à quitter. Il y a donc de plus en plus de réfugiés sur l'île. Le président chypriote a d'ailleurs remercié le pape qui va transférer 50 migrants au mois de décembre de Chypre en Italie. Une initiative symbolique et un message fort pour l'Europe, selon le président chypriote, qui doit mieux répartir les migrants. Le pape, lui, s'inquiète des murs de la peur et des vétos dictés par des intérêts nationalistes qui menacent l'unité de l'Union européenne. À Nicosie, Bruce de Galzin, France Inter.
Le pape François demain en Grèce est attendu sur l'île de Lesbos dimanche. Emmanuel Macron, lui, s'envole vers le golfe Persique pour signer un gros contrat de vente de Rafale aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. On parle de 30 à 60 appareils. Le chef de l'État est ensuite attendu au Qatar, puis en Arabie Saoudite où il rencontrera le prince héritier Mohamed Ben Salman, accusé d'être le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Pierre Aski en fera sa chronique juste après ce journal. Most Wanted, qui sont les criminels les plus recherchés d'Europol, l'agence de police européenne. Elle publie chaque année sa liste avant Noël, assortie d'appels à témoins pour aider les enquêteurs. Et on y trouve un Français, un baron de la drogue, le très discret Joël Soudron, soupçonné d'avoir fait transiter des centaines de kilos de cocaïne des Antilles vers le port du Havre, Emmanuel Macron.
Joël Soudron s'est fait la belle en 2018 après avoir été arrêté au Mali 2 ans plus tôt et extradé vers la France. Les enquêteurs savent qu'il a réussi à passer plusieurs frontières sans difficulté dans les Caraïbes et en Afrique francophone, sous l'identité de James Oliver Kane ou encore Bernard Honorat Dallon. L'homme âgé de 42 ans dispose de gros moyens en centaines de milliers d'euros accumulés grâce à des trafics de cocaïne au début des années 2000. Mais Joël Soudron a une particularité dans ce milieu des narcotrafiquants. Il n'est pas bling-bling, il ne vit pas non plus comme un mafieux italien. Comme le raconte Jacques Crolli, le chef de la brigade nationale de recherche des fugitifs.
L'enquête a montré qu'il avait une volonté manifeste de rester extrêmement discret sous les radars et de ne absolument pas attirer l'attention ni de ses concurrents ni des forces de police. Et en cela, il se distingue de bien d'autres trafiquants de stupéfiants qui sont davantage dans l'ostentation. Il n'a pas, comme des mafieux italiens, la structure clanique qui peut le protéger.
Sa protection, c'est d'être un monsieur tout le monde avec des activités légales dans plusieurs pays en lui offrant une certaine notoriété publique. La police judiciaire espère donc que Joël Soudron aura un peu plus de mal à voyager tranquillement et à blanchir ses narco-euros dans l'immobilier de luxe, comme il l'aurait tenté de le faire au Sénégal et en Guinée récemment.
Emmanuel Leclerc, évidemment, Macron. Hein,
comme vous l'avez dit, oui.
De quoi alourdir un peu plus la facture des automobilistes. Le prix des péages devrait augmenter de 2% en moyenne au 1er janvier. Le contrat entre l'État et les gestionnaires d'autoroutes prévoit chaque année une hausse calculée en fonction de l'inflation.
Il est 8h13, trouver un emploi sans CV grâce à son savoir-être.
C'est possible grâce au sport. En tout cas, c'est le pari de Pôle emploi avec la Fédération française d'athlétisme. Des matinées sportives sont organisées où les demandeurs d'emploi et les recruteurs viennent sans dire qui fait quoi. Ils font équipe avant de parler boulot. Adèle Belloumri, entretien d'embauche en jogging et en basket.
90 demandeurs d'emploi et 9 recruteurs répartis en 8 équipes. Les rouges affrontent les verts au son en longueur. Des épreuves ludiques et adaptées à tous, sportifs ou non.
Des jeux de course, des jeux de déplacement, de saut, de lancer, de motricité.
Antoine est chargé de mission à la Fédération française d'athlétisme.
L'objectif, c'est bien de mettre en avant les savoir-être. Chacun peut se dévoiler comme il est, au naturel. On met en avant l'esprit d'équipe, le sens de la communication. Tous ces savoir-être qui sont finalement essentiels et importants dans le monde de l'entreprise.
Pendant la pause déjeuner, Alain, 59 ans, dit rencontrer des difficultés pour trouver un travail à son âge.
Et là, il n'y a plus de barrière. Le sport, c'est vraiment l'anti-barrière. J'ai joué le jeu à fond.
Ça tombe bien. À sa table, une recruteuse.
C'est Medina.
Elle cherche des équipiers pour les restaurants quick.
Effectivement, il y a des très bons profils.
Après le déjeuner, les masques tombent, place aux entretiens et Sébastien a bien caché son jeu.
Mon équipe pensait que je venais de la police. Pas du tout, vu que je suis recruteur chez Naturalia. Grosse erreur de casting.
Et dans son équipe, Thomas ne le savait pas.
Non, pas du tout, mais je m'en doutais. Comme les deux demoiselles de la Galerie Lafayette, je ne m'attendais pas du tout. Ça tombe bien, parce que j'ai très bien sympathisé avec elles et on a plutôt bien rigolé.
Le dispositif du Stade vers l'emploi fonctionne plutôt bien. Près de 70% des candidats retrouvent un emploi après les entretiens.
Un reportage à Paris, signé Adèle Belloumri. Pôle emploi veut organiser une centaine de ces sessions dans toute la France l'an prochain. Enfin, vendredi 3 décembre, on ouvre la troisième fenêtre de notre calendrier de l'Avent culturel. Chaque jour, une idée de cadeau de Noël. Et ce matin, ah ah ah, c'est le titre d'un livre et d'une exposition sur l'humour dans l'art avec le Centre Pompidou à Bruxelles. Évidemment, le livre regorge d'œuvres subversives et de bons mots. Isabelle Pasquier.
Si votre tante Paulette déteste les bobos branchouilles qui sont en transe devant la banane de Maurizio Cattelan vendue 120 000 $, alors ce livre est pour elle. Mais si la vue de l'urinoir en fontaine de Marcel Duchamp met en extase votre petite cousine Artie, alors ce livre est aussi pour elle. Car il retrace le pouvoir subversif de l'humour dans le monde de l'art en attaquant aussi ses dérives marchandes. L'humour est au cœur de la révolution dadaïste et surréaliste qui dynamite le bon goût et l'art moderne. Pour Marcel Duchamp, cet humour est libérateur.
L'humour pour moi était une sorte de sauvetage, car jusque-là pour moi l'art était une chose tellement sérieuse, tellement pontificale.
Dans ce livre, l'humour d'Andy Warhol, faire de l'argent est un art, et Piero Manzoni se moque du culte de l'artiste et de la spéculation. Il vend carrément des boîtes étiquetées « merde d'artiste » avec 30 grammes de ses excréments. Et bien sûr, il y a le cas Dali, la mégalomanie érigée en performance artistique, Dali qui casse le père de l'art moderne, Cézanne.
Le plus catastrophique est celui qui a plongé l'art moderne dans la merde sublime qui est en train de nous engloutir à tous.
Ah ah ah, un livre d'art qui prend l'humour très au sérieux.
Voilà, et pour un prix de 39 euros, cadeau
merci,
de Noël.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Stéphanie, le temps est à nouveau perturbé.
Et oui, de nouvelles pluies gagnent le nord-ouest ce matin avec du vent jusqu'à 70 km par heure. Entre la région parisienne et le nord-Pas-de-Calais, quelques flocons peuvent même se mêler à la pluie. Ailleurs, la matinée reste très nuageuse et humide. Seules les Alpes et les régions méditerranéennes profitent du soleil, mais aussi du vent, jusqu'à 100 km par heure, mais ça reste instable en Corse. Cet après-midi, les pluies concerneront les régions allant de l'océan vers le centre-Val de Loire, la Manche et les Ardennes. Un peu de neige sera envisageable en Champagne-Ardennes, puis sur le nord-est. De la pluie verglaçante, elle sera vers le Limousin et le Massif central. Les averses vont cependant s'espacer sur l'île de Beauté, tandis que le ciel se voilera en Méditerranée, le vent ne dépassant plus que les 70 km par heure.
Et il fait froid.
Les gelées sont fréquentes au réveil, comprises entre moins 5 et 0 degrés. Les températures cet après-midi repartent à la baisse pour évoluer généralement entre 4 et 9 degrés, mais 11 à 15 près des côtes. Il fera 4 degrés à Grenoble, 6 à Strasbourg et Aubenas, 8 à Avignon et Besançon, 10 à 7 et Boulogne-sur-Mer, 12 degrés à Paris et Carcassonne, 14 à Brest, Biarritz et Ajaccio.
Merci Stéphanie et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h18, c'est Géopolitique.